بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, le souverain du monde, qui nous a comblé de connaître et de s'affilier à cette noble voie qui est la voie de notre messager alayhi salatu wassalam et de ses nobles compagnons radhiyallahu alayhim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse là-dessus jusqu'à la fin de notre vie. Ceci dit, nous continuons notre sujet autour de cette ghurba que vit le musulman en général et le salafi en particulier, pour se rendre compte que l'histoire se répète. Et comme je l'ai dit lors de l'assise précédente, la ghurba, c'est-à-dire l'étrangeté, l'isolement apparaît dans beaucoup de domaines. La ghurba apparaît dans beaucoup de domaines et les compagnons, ridwanullahi alayhim, ont capté ceci très tôt. Et ils l'ont remarqué, comme nous l'avons vu avec le hadith de Anas, radiyallahu anhu ardah. Et nous avons ici le hadith authentique, qui est le hadith de Imran et d'Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu ardah et d'autres. Le messager a dit: les meilleurs gens sont ceux de ma génération et ceux qui les suivent et ceux qui les suivent. Cela veut dire qu'après eux commencent les fitanes et les perturbations. Et à quel moment les fitanes ont commencé de façon claire et très dangereuse? À l'époque du calife Abbaside le Ma'moun. Quant à l'époque des Omeyyades, les innovateurs étaient écrasés. Il en est de même au début de la Khilafa Abbaside. Le Mahdi, le calife Abbaside, avait créé une section spéciale, ou plutôt une brigade spéciale anti-bid'a et anti-mubtadi', qui combattait et condamnait les innovations, les innovateurs, et les mettaient en prison. Il en est de même lors de la Khilafa de Harun al-Rashid avant. Il m'a dit, il a fait commettre en application le testament de son père à ce niveau-là. Et ceci a duré jusqu'à la Khilafa du Ma'moun. C'est lors de sa Khilafa où les fitanes ont commencé à sortir leurs cornes. Aux alentours de 218-220. Et après cette époque, les bidas ont eu pignon sur rue et les ennemis d'Allah se sont renforcés, ainsi que les Rawafid, ainsi que le Murji'a, ainsi que les Khawarij, ainsi que les Jahmiya, ainsi que les Mu'tazila. Les leaders de l'innovation ont élevé leur tête et leur étendard qui sont restés levés jusqu'à nos jours. De nos jours donc, celui qui médite les situations du monde, la situation du monde musulman, voit la propagation des innovations, sauf chez le peu de salafis dans le monde qui ont pris la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Celui qui observe nos mosquées se rencontre de la ghurba de la sunna chez beaucoup de musulmans. Dans nos sociétés, rare que tu rencontres quelqu'un avec qui tu peux discuter et débattre avec des preuves. Et rares sont ceux qui blâment les innovations et le politisme. Tous disent, louange à Allah, les gens sont dans le bien, malgré l'existence des bidats, malgré l'existence du politisme, malgré que les temples s'adorent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et peu acceptent les répliques, peu acceptent les répliques des savants. Donc la ghurba est très claire. Mais, bien sûr, il y a toujours cette exception. Il y aura toujours cette exception, cette fraction qui lève l'étendard de la vérité et qui fait triompher la vérité. Hein? Cette fraction-là existera jusqu'à la fin des temps. Donc, en tout lieu et en tout temps. Dans certains coins du monde, ils sont nombreux. Dans d'autres, ils sont moins nombreux. Et ainsi de suite. Donc, il faut donner une grande importance à ce noble hadith du messager alayhi salatu wassalam. L'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé. Et et prendre les leçons que les savants ont extraites de ce hadith pour que ça nous motive et que ça nous encourage et ça nous booste à faire plus dans notre religion et à se conformer plus aux directives de celle-ci et à œuvrer pour cette religion, chacun selon ses capacités. Hein? Donc, avec sagesse, science, clairvoyance, en mettant les choses à leur place. Donc, la ghurba de nos jours est concrète. Et c'est une ghurba de la voix, et non une ghurba du nombre. La ghurba des compagnons, Ridwanullah alim, était dans le nombre au début. Et la nôtre, c'est la ghurba de la voix. Si on fait une estimation des frères musulmans et d'établir et des autres tendances à travers le monde, ils se comptent avec, par millions. Mais où sont-ils de la voix du messager alayhissalam, de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection? Où sont leurs savants du hadith? Où il est leur défense de la sunna du messager alayhissalam? Où est leur défense de la aqida authentique? Où est leur défense de la sunna du prophète alayhissalam authentique? Ils n'ont que des dissertations, des spéculations, hein? Des dissertations spéculatives, de la philo, des théories qui ne tiennent pas debout, des analyses politiciennes, des contes de fées, du tourisme sur terre, des assassinats, de l'anarchie, des anachides, du théâtre, de la musique, la mort, des gens passent. Vous avez entendu où dans les annales de l'histoire, vous avez lu où dans les annales de l'histoire que les compagnons du messager alayhissalam avaient des groupes d'anachides ou une troupe théâtrale ou des événements de la mode? Tout ceci ne fait pas partie de l'islam. L'islam, c'est la sérénité. L'islam, c'est la quiétude. L'islam, c'est l'apaisement. Et non le bruit des tambourins et des batteries et des castagnettes et des guitares. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les nobles compagnons radhiyallahu alayhim. Quand on leur récite le Coran et quand ils entendent le Coran, il les a décrits ainsi. Qala azza wa jal, Allah anzal ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Donc dans sourate Zumar, le verset 23, la traduction approximative du sens de ce verset nous dit ceci: Allah a révélé le plus beau des messages en un livre dont les versets se ressemblent et se répètent, et ils se répètent à l'écoute duquel la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frissonne, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Telle est la guidée du livre d'Allah à travers lequel il guide qui il veut. Quant à celui qu'Allah égare, il n'a point de guide. Regarde, médite. Allah ne les a pas décrits par la danse, par la transe, par la musique ou autre. Et nous avons à méditer, observer et écouter ce qui se passe autour de vous. Regardez le congrès annuel de ceux qui ont fait faillite dans la politique et qui ont englouti leur groupe dans les innovations. Les traîtres musulmans, comme les appelle Cheikh Mokbel rahimahullah ta'ala. Regardez leur congrès au Bourget. La débauche le soir, le libertinage. Regardez la débauche qui s'y passe et le libertinage qui s'y passe. Chaque soir, c'est la danse entre cette jeunesse qu'on conduit et cette jeunesse ne sait pas le malheur vers lequel on la conduit. Dans certains pays, tu vois l'homme, sa barbe arrive à sa poitrine. Un tambourin à la main ou une guitare. Donc, ceci est une énorme ghurba. Quant aux docteurs de cette tendance, hein, certains disent fièrement, on écoute, smahan, on écoute, mkeltoum. Et ils avancent comme argument, Allah est beau et il aime la beauté. Hein? C'est quoi cette compréhension stérile de l'islam? Il déclare tout cela aux orientalistes, aux ennemis d'Allah. Certains leaders de cette secte des frères musulmans a fait son interview une fois avec une journaliste dans un pub en Angleterre. Et il s'est filmé en étant derrière une batterie de musiciens là. Quel bien peut nous venir de la pensée de ce genre d'individu? Quel bien il peut venir de la pensée de ce genre d'individu pour la communauté? Il n'y a aucun bien à espérer d'eux. Sinon, ils conduisent la jeunesse vers leur éclatement, vers l'égarement, vers la colère d'Allah, vers les voies qui sont aimées par les ennemis d'Allah. Et tu as à voir sur les marchés de France l'étalage de CD, de groupes d'anachides, le silence du mosquée et autres. Ils prétendent que ce sont des anachides islamiques. A'oudou billah. Et nous, ceux qui veulent se cramponner à la voix du pieux prédisseur d'Allah, on veut tout simplement l'islam qu'a transmis Mohammed alayhi salatu salam et sur lequel étaient les nobles compagnons d'Allah alayhim. On ne se concurrence pas pour Kultoum ou pour Smahan ou pour Zuzu ou pour Zaza. Et on ne cherche pas d'alternative à l'islam sur lequel était Mohammed alayhi salatu salam et ses compagnons. Notre alternative, c'est la parole d'Allah, la sunna, l'authentique de la sunna du messager alayhi salatu salam, selon la voie et la compréhension des nobles compagnons d'Allah alayhim et de ceux qui les suivent à la perfection. Voilà tout. Vous voyez clairement cette ghurba au point où les gens demandent des alternatives à leur futilité et à leur égarement. Donc la ghurba est concrète dans l'imagination et dans la réalité de la situation dans tous les domaines. C'est une preuve irréfutable de la véracité de notre messager alayhi salatu salam et de la véracité de son message. Quand il a dit, alayhi salatu salam, l'islam a commencé étranger et redeviendra étranger comme il a commencé. Touba aux étrangers. Félicité, un arbre au paradis, un apaisement, une quiétude à ces étrangers. Et si on veut faire une comparaison, comme je l'ai dit au début de cette série, on voit que les situations, la situation est similaire. Les situations sont similaires. Il y avait à l'époque où le messager est arrivé, alayhi salatu salam, la Perse et les Romains et les polythéistes de Quraysh et des Arabes. Et aujourd'hui, l'Amérique, l'Europe et leurs alliés et ces groupes et tendances islamiques déviants qui combattent la voie des salafs. On voit. Et ceci doit nous booster. Il doit encore faire de nous des gens qui courent vers l'accomplissement de la sunna de celui qui est le véridique, qui n'a dit que la vérité. Et donc, vu les pressions et les barrages qu'on dresse à l'est et à l'ouest contre les musulmans qui veulent se cramponner à la voie sur laquelle était Mohammed alayhi salatu salam, ses nobles compagnons, et qui veulent éduquer leurs enfants selon la voie de Mohammed alayhi salatu salam, ses nobles compagnons, pour se motiver pour cela, et pour ne pas broyer du noir et faiblir, on va revenir en arrière, pour se rendre compte des efforts et de la patience qu'a prodigué Mohammed alayhi salatu salam et ses nobles compagnons pour cette religion, car on veut être leurs héritiers. Et donc on doit hériter tous deux, même les épreuves, et essayer de passer les épreuves comme ils les ont passées, radiallahu anhu wa ardahu. Donc il va falloir se doter de la foi et de la force pour surmonter les épreuves, pour être des dignes héritiers. Notre messager est Ses nobles compagnons ont surmonté de grandes épreuves pour que cette religion arrive jusqu'à nous. Et ceux qui les ont suivis à la perfection ont fait de même pour que cette religion arrive jusqu'à nous. Pure. Au début de la da'wah de notre noble messager, alayhi salatu wassalam, cette da'wah au début se passait discrètement et en secret. Jusqu'au jour où Allah lui a ordonné de sortir de cette discrétion et de déclarer haut et fort sa da'wah. Et tout ceci, nous allons le citer parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'il est obligatoire de le prendre comme modèle. Il est dit dans le verset, dans Sourate Al-Ahzab, les coalisés, verset 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. La traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: vous avez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et mentionne fréquemment Allah. Dans le hadith rapporté par le Bukhari et par Muslim, Abdullah ibn Abbas a dit, quand ce verset est descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam, qui est le verset 214 de Sourate les Poètes, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, la traduction approximative nous dit ceci: avertis d'abord tes proches, les proches de ta tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mont Safa et il a commencé à appeler ses proches famille par famille. Ô Bani Fahr, ô Bani Uday, jusqu'à ce qu'ils se sont tous réunis, et si quelqu'un ne pouvait pas se déplacer, il envoyait quelqu'un pour lui rapporter ce qui se passe. Abu Lahab ainsi que Quraysh sont arrivés. Et le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, si je vous annonce qu'une cavalerie est derrière dans la vallée, va vous attaquer, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit, oui, on ne te connaît pas, on ne te connaît que véridique. Regardez, on ne te connaît que véridique. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, je vous avertis contre un énorme châtiment. Et regardez maintenant comment la situation va se tourner. Et qu'est-ce qu'il va commencer à subir? Abu Lahab a dit, la perte est pour toi toute la journée. C'est pour ça que tu nous as réunis. Et la sourate est descendue. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. La traduction approximative du verset qui sont descendus nous dit cela. Qu'Abu Lahab soit perdu, certes sa perte est irrémédiable, sa fortune et tout ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Et selon ce qui est rapporté par l'imam Muslim, la version d'Abu Hurayra radiallahu anhu arda a dit, quand le verset wa anzir ashiratak al aqrabin est descendu, avertis les proches de ta tribu, le messager d'Allah a appelé Quraysh. Il s'est adressé à eux de façon générale et de façon particulière. Et il a dit, ô Bani Ka'b, ô Bani Lu'ay, ô Bani Ka'b, Bani Lu'ay, sauvez vos âmes du feu. Ô Bani Murra, Ibn Ka'b, sauvez vos âmes du feu. Ô Bani Abdi Shams, sauvez vos âmes du feu. Ô Bani Abdou Manaf, sauvez vos âmes du feu. Ô Bani Hashim, sauvez vos âmes du feu. Ô Bani Abdul Muttalib, sauvez vos âmes du feu. Ô Fatima, sauve ton âme du feu. Je ne peux rien pour vous auprès d'Allah, sauf que vous avez un lien de parenté que j'entretiendrai. Et regardez, selon le hadith de Aïcha radiallahu anha, rapporté par l'imam Muslim, quand ce verset est descendu à Andir Ashiratak al-Aqrabin, avertis les proches de ta tribu, le messager d'Allah s'est levé sur le mont Safa et il a dit, ô Fatima bint Muhammad, Ô Safiya bintu Abd al-Muttalib, ô Bani Abd al-Muttalib, je ne peux rien pour vous auprès d'Allah. Demandez de mon argent ce que vous voulez. Et selon le hadith d'Abu Huraira, le messager d'Allah a dit quand le verset est descendu à Anzir Ashila Takal Akrabin, avertis tes proches, les proches de ta tribu. Le messager a dit, ô Quraysh, achetez vos âmes. Achetez vos âmes d'Allah, c'est-à-dire sauvez vos âmes en vous soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux rien pour vous auprès d'Allah. Ô Bani Abd al-Muttalib, je ne peux rien pour vous auprès d'Allah. Ô Abbas bin Abd al-Muttalib, je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Ô Safiya, tante du messager, je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Ô Fatima, fille de Muhammad, demande-moi ce que tu veux, mais je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Donc ceci, c'est le début de la da'wah publique du messager alayhi salatu wasalam. La da'wah pour tous, de croire en Allah, l'unique digne d'être adoré. Et notre messager alayhi salatu wasalam a continué à transmettre son message en public. Et appeler les gens à réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala en tout lieu. Et il a commencé à faire sa prière et sa lecture du Coran en public devant les mécréants. Les faibles et les pauvres ont commencé à croire en Allah et à suivre son messager alayhi salatu wasalam et à le suivre dans cette voie et dans cette religion du monothéisme avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager. Et jour après jour, hein, ils augmentent. Et parmi ceux qui se sont convertis à l'islam à cette, période, à la Mecque, Abu Dharr al-Ghifari. Et dans l'histoire d'Abu Dharr al-Ghifari, il y a beaucoup de choses à méditer. On déduit des versions authentiques qu'Abu Dharr al-Ghifari blâmer les situations de la période pré-islamique et refuser l'adoration des idoles et blâmer ceux qui donnent des associés à Allah. Abu Dharr priait pour Allah 3 ans avant sa conversion à l'islam sans s'orienter vers un endroit précis. Il était influencé par l'Ahnaf, c'est-à-dire les monothéistes qui se sont bien éloignés du polythéisme. Quand il a entendu parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à la Mecque. Il n'a pas voulu poser des questions concernant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand la nuit est arrivée, il s'est allongé pour dormir à côté de la maison d'Allah. Ali l'a vu et a su que c'est un étranger à la Mecque. Et il lui a donné l'hospitalité. Le matin, Abu Dharr l'a quitté pour la mosquée sacrée. La même chose s'est reproduite le deuxième jour et le troisième jour et la troisième nuit. Et là, Ali lui a posé la question sur le motif de sa venue à la mosquée. C'est-à-dire, il l'a accueilli pendant 3 nuits. Et c'est seulement vers la troisième nuit qu'il lui a posé la question sur la cause et le motif de sa venue à la Mecque. Et quand Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu arda, a eu confiance en lui, il lui a annoncé qu'il voulait rencontrer le messager d'Allah. Et Ali, comme ceci est rapporté par al-Bukhari et Muslim, lui a dit, c'est vrai qu'il est le messager d'Allah. Demain, suis-moi. Si je vois un danger pour toi, je ferai comme si j'asperge de l'eau. Il fera comme s'il aspergeait de l'eau. Comme ça, hein, Abu Dharr fera attention. Et donc je ferai comme si j'asperge de l'eau, j'asperge l'eau, et dit que j'avance, suis-moi. Abu Dharr l'a suivi, et il a rencontré le messager d'Allah, et il a écouté le messager d'Allah, et il s'est soumis à Allah. Le prophète lui a dit, retourne chez toi, retourne vers les tiens, et retourne vers ta tribu, et annonce-leur cela, et attends mes nouvelles. Abu Dharr al-Ghifari, regardez cette force de la foi qu'il a habité dès le début. Abu Dharr lui a dit, radiyallahu anhu arda, il a dit au messager, alayhi salatu wassalam, par celui qui tient mon âme dans sa main, je vais la déclarer haut et fort au milieu d'eux. C'est-à-dire, je vais déclarer haut et fort ma conversion à l'islam. Au milieu de qui? Au milieu des polythéistes. Abu Dharr, radiyallahu anhu arda, est sorti, quand il est arrivé à la mosquée sacrée, il a crié haut et fort, j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Ainsi étaient les nobles compagnons. On comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il les a choisis pour être les vizirs et pour être les compagnons du messager alayhi salatu wassalam. Les Quraishites se sont levés, les mécréants politistes qui étaient autour de la mosquée se sont levés contre lui et ils l'ont frappé et mis par terre. L'Abbas ibn Abdul Muttalib est arrivé et il les a avertis de la vengeance de la tribu de Ghaffar et que leur commerce va subir car les caravanes commerciales de Quraysh passent par, hein, par le lieu où habite la tribu de Ghaffar pour aller à Sham, vers le nord de l'Arabie. Ainsi, l'Abbas il a sauvé Abu Dharr des mains des polythéistes. À la lecture de ce hadith, Akhal Islam, regarde ce qui est arrivé. Hein? En entendant ce hadith, et quand tu lis ce hadith, pense à ce qui est arrivé à certains prêcheurs salafis dans le monde francophone, comment ils ont été calomniés dans les médias, comment on les a privés de l'enseignement dans les mosquées, comment on les accuse de choses desquelles ils sont innocents, comment on essaye de leur enlever leurs enfants, et comment on a fermé les mosquées de certains, comment certains ont vu leur compte à la banque être gelé. Et ça, c'est des preuves à subir. Ce sont des preuves. C'est comme ça. On ne peut pas chercher le chemin de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas être éprouvé. Hein? Donc les mécréants, après les événements de la da'wa publique du messager alayhi salatu wassalam, se sont réunis pour se concerter comment détourner les gens de l'islam et comment détourner Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même de cette da'wa. Et les shayatins indigènes ainsi que les shayatins humains leur ont embelli différents moyens pour cela. Et l'histoire à l'islam se répète. On voit comment certains pays en Europe se réunissent, hein, réunissent leur parlement, leur sénat pour légiférer des lois pour barrer la route à l'islam authentique, à la voix des salafs. Hein, ce prétexte de l'extrémisme, du séparatisme, et j'en passe. Donc les shayatines ont orienté les politistes de la Mecque vers la dérision, le rabaissement, les insultes. Hein? Ils riaient du prophète et de ses compagnons. Le but de cela, c'est de faiblir les musulmans, de détruire leur morale et de détourner les gens de cette religion. Et regardez comment on se moque de l'islam et des musulmans par des caricatures dans différents pays d'Europe. Et comment on fait rigoler les élèves avec ces caricatures dans le but de démoraliser et de se moquer des musulmans et des musulmanes et de leur religion. قال عز وجل وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن كافرون. Dans Sourate les Prophètes, verset 36, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Lorsque les mécréants te voient, ils te prennent en dérision. Et cela, celui est-ce là celui qui dénigre vos divinités, alors que eux nient tout rapport au miséricordieux. Et regarde, certains Ou le journal télévisé. Il dit, Hada, en parlant d'un jeune hein, qui a la marque de la prosternation sur le front, Hada, il avait une bosse à force de se frapper par terre. Il l'a dit pourquoi hein? Par moquerie. وقال تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا. Et donc le critère, surat critère, verset 41-42, la traduction approximative nous dit des versets cités ici. Lorsque les mécréants te voient, ils te prennent en dérision. Et cela, celui qu'Allah a envoyé comme messager, il a failli nous détourner de nos divinités si nous n'avions patienté fermement. Dans leurs adorations, si nous n'avions patienté fermement dans leur adoration, ils nous auraient égarés. Mais lorsqu'ils verront le châtiment, ils sauront qui est le plus égaré. وقال عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون. Et donc cet autre verset hein, il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, « Ceux qui seront les coupables de mes créances se moquaient des croyants ici-bas. Lorsqu'ils passaient à côté d'eux, ils échangèrent des œillades ironiques. Lorsqu'ils rentraient chez eux, ils ont plaisanté. Et lorsqu'ils les voyaient, ils disaient, « Voici les égarés. » Les mes créants n'ont pourtant pas été suscités pour surveiller les croyants. Mais en ce jour, c'est-à-dire dans l'au-delà, ce sont les croyants qui se moqueront des mécréants, installés sur de somptueux divans, et ils regarderont les bienfaits d'Allah et le sort réservé aux hôtes de l'enfer. N'est-ce pas que les mécréants ont été récompensés pour ce qu'ils faisaient? Par Allah, ils le seront, sans aucun doute. Donc, Allah châtiera les mécréants dans le delà d'un châtiment similaire, plus fort encore que celui qu'ils ont fait subir aux croyants dans ce bas monde. وقال عز وجل ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Donc dans sourate les croyants, du verset 103 à 111, la traduction approximative du sens des versets nous dit cela. Quant à ceux dont les bonnes œuvres seront plus légères que leurs péchés, voilà ceux qui auront causé leur perte et qui demeureront éternellement dans la géhenne. Le feu brûlera leur visage et leurs lèvres se crispiront de douleur. On leur dira, mes versets ne vous est-il pas récités? Et vous les démontiez alors? Ils diront, Seigneur, ne fût-ce que nos passions l'ont emporté sur nous et nous étions égarés. Seigneur, fais-nous sortir de l'enfer. Si nous récidivons, nous serons alors transgresseurs. Demeurez-y. Il leur sera répondu, demeurez-y. Humilié, il ne m'adressait plus la parole. Un groupe de mes serviteurs disait, Seigneur, nous croyons, pardonne-nous, fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. Vous les avez alors pris en dérision, jusqu'à en oublier. de m'évoquer et vous vous moquez d'eux, je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré. Ce sont eux les bienheureux. Donc les mécréants ne cessaient de semer les doutes et les ambiguïtés sur le prophète pour détourner les gens de la religion d'Allah. Hein? Comme aujourd'hui aussi, combien de gens sèment le doute et des ambiguïtés sur la religion d'Allah? Et combien de tendances, hein, qui font le travail des ennemis d'Allah pour envoyer des ambiguïtés? Et ces mécréants de l'époque pré-islamique, des fois, ils traitaient le prophète alayhi salam comme quoi il est possédé. Et aujourd'hui, les termes ont changé. Les leaders, les prêcheurs, ce sont des gourous, des terroristes, et ainsi de suite. Des arriérés, des gens qui veulent le faire revenir à l'âge de pierre. Yeah. قال عز وجل وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. La traduction approximative du verset nous dit ceci. Les mécréants disent, ô toi qui prétends qu'on t'a révélé le Coran, tu es complètement possédé. Ainsi ils le traitaient. Tout ça pour détourner les gens de sa religion. وقال عز وجل وَنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. La traduction approximative du verset nous dit ceci, le verset dans la plume 51, peu s'en fout que les mécréants ne te transpercent du regard lorsqu'ils entendent le Coran, ils disent il est possédé. Allah Azza wa Jal leur a répliqué à ce mensonge. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa ma sahibukum bimajnoun. La traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: votre compagnon n'est pas possédé. Vous voyez que dans le Coran on se retrouve avec des répliques que certains n'acceptent pas. Et aussi, le premier et le deuxième verset dans Sourate la Plume, où il est dit Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. La traduction approximative du sens de ce verset nous dit Nun, c'est-à-dire la lettre N, par la plume et ce que les hommes écrivent, de par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas possédé. C'est comme le prétendent les polythéistes et les mécréants. Et des fois, ils accusaient le messager d'Allah en lui attribuant la sorcellerie, le mensonge, la poésie, la divination. قال عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. La traduction approximative du sens du verset nous dit ceci. Les mécréants s'étonnent qu'un homme pris parmi eux vient les avertir. Et ils disent, c'est un magicien, c'est un sorcier et c'est un grand menteur. Ainsi il a été traité notre messager, alayhi salam, par ces polythéistes. Et on veut être ses héritiers et on veut qu'on nous étale des tapis rouges et des pétales de roses. Abedin. Et dans l'autre verset, il est dit, « قال عز وجل » وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. La traduction approximative de ces versets dans sourate Le Critère, Le Furqan, ils disent: qui donc que ce messager qui consomme de la nourriture et fréquente les marchés? Pourquoi n'a-t-on envoyé avec lui un ange pour qu'il soit avertisseur avec lui? Pourquoi n'a-t-on descendu sur lui un trésor ou ne possède-t-il pas un verger dont il se nourrirait? Les transgresseurs disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Allah a répliqué à leurs mensonges dans sourate Al-Haqqa, l'inévitable. Vous voyez les répliques aux mécréants, comment ils sont nombreux dans le Coran. Et après on dit, Hado, ils ne font que répliquer. Ainsi, ils répliquent, c'est qu'ils suivent la parole d'Allah, Azza wa Jal. Il est sunnah de son messager, alayhi salatu salam. Et ils répliquent à ceux qui méritent les répliques. Et ils répliquent avec preuve. Qala Azza wa Jal, fala uqsimu bima tubsirun. وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. Donc la traduction approximative de ces versets dont l'haqqa, l'inévitable, l'haqqa c'est l'un des noms du jour de la résurrection, hein, qui est obligatoire, inévitable. La traduction approximative du sens de ces versets, cette traduction approximative, nous dit ceci. Je jure par ce que vous voyez et par ce que vous ne voyez pas, que ce Coran est la parole d'un noble messager. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala attribue le Coran au messager alayhi salatu salam, car il est son transmetteur, comme ils disent les hommes de science. Ce n'est, c'est-à-dire... Ce Coran est la parole d'un noble messager, ce n'est point la parole d'un poète, mais vous ne croyez pas. Ce n'est point non plus la parole d'un devin, mais vous ne réfléchissez pas. C'est une révélation émanant du Seigneur de l'univers. Et s'il nous avait faussement attribué quelques propos, nous l'aurions saisi avec force et nous lui aurions tranché la horte. Et nul d'entre vous n'aurait pu s'y opposer. Le Coran est un rappel pour ceux qui craignent Allah. Nous savons que certains d'entre vous le démentent. Mais cela sera une source de regret pour les mécréants, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Le Coran est une vérité certaine. Et comme vous le savez, les mécréants de la Mecque calomniaient et accusaient le messager d'Allah avec des fausses accusations. Pourquoi ? Pour détourner les gens de lui et pour détourner les gens et pour que les gens ne croient pas en lui et ne croient pas en son message. Méditez maintenant cette histoire. Un homme est arrivé à la Mecque et il a entendu dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est possédé. Il est allé vers le messager d'Allah pour lui faire ruqya. Et quand il s'est assis avec le messager d'Allah et qu'il a écouté ses paroles, il a cru en le messager d'Allah. Hada, c'est un raqi. Hein? Ibn Abbas, qu'Allah les agrée et agrée tous les nobles compagnons d'Allah alayhim. Et le hadith est rapporté par Muslim a dit d'Imad. Il s'est dit de ce compagnon qui s'appelle Dimad. Dimad est venu à la Mecque. Il était de Azd de Chanoua. Azd Chanoua, qui est une tribu parmi les tribus arabes qui se trouve à l'ouest de la péninsule arabe. Dimad était connu pour Ruqya, contre le djinn. Et il a entendu les insensés parmi les Mekkois dire Muhammad est mjnoun. Et Muhammad est possédé. Et il s'est dit, si je rencontre cet homme, peut-être qu'Allah le guérira par ma cause. Et il l'a rencontré, et il lui a dit, oh Muhammad, je fais le ruqya contre le djinn, et Allah guérit par ma cause, qui il veut, subhanah. Et Allah guérit par ma cause, qui il veut. Est-ce que tu veux que je te fasse le ruqya? Le messager d'Allah lui a dit, louange à Allah, que nous louons, à qui nous demandons secours et à qui nous demandons le pardon. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer Et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités en dehors d'Allah. D'autres divinités dignes d'être adorées en dehors d'Allah. Et que Muhammad est le soumis, le messager d'Allah. D'Imad, qui est venu pour voir le prophète pour lui faire ruqya, a dit tout d'un coup, D'Imad a dit au messager, répète-moi ces phrases. Répète-moi ce que tu as dit. Le messager les lui a répété trois fois. D'Imad a dit, j'ai entendu les paroles des devins, et les paroles des sorciers, et les paroles des poètes. J'ai jamais entendu comme ces paroles. Et ils sont arrivés au fin fond du cœur. Et il a dit, D'Imad a dit au messager, alayhi salam, donne-moi ta main, je te fais l'allégeance pour la soumission à Allah. Le messager d'Allah lui a dit, aussi pour ton peuple D'Imad, D'Imad lui a dit, aussi pour mon peuple. Le messager d'Allah, après, avait envoyé une troupe qui sont passées par le peuple de D'Imad. Et l'émir de la troupe leur a dit, est-ce que vous avez pris du butin de cela, c'est-à-dire du peuple de D'Imad, Un homme a dit, oui, j'ai pris un récipient de l'eau d'eau. L'émir lui a dit, rendez-la, c'est le peuple de D'Imad. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Méditez cette histoire de D'Imad et les mécréants de Quraysh voulaient éloigner les gens du messager en l'accusant de Mjnoun. Cela a été la cause pour que les gens se rentrent dans l'islam. D'Imad s'est converti ainsi que sa tribu. Allahu Akbar, il n'y aura de l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Donc, dans ce que nous avons vu, nous avons entendu, apparaît clairement comment l'histoire se répète. Comment l'histoire se répète. Ce qui sont, c'est juste les lieux et les expressions. Hier, on traite le messager de devin, de sorcier, de mejnoun, etc. Ses disciples d'insensés. Aujourd'hui, on vote carrément des lois dans les sénats et parlements en Europe pour contrer et pour faire barrage à la voix de Mohammed al-Sallam et de ses nobles compagnons, ce prétexte de lutter contre le terrorisme, le séparatisme, l'extrémisme, etc. Et regardez ce qui se passe avec les caricatures qui dénigrent le messager et son message. Ce prétexte de cette prétendue liberté, et Allah les a dévoilés avec les caricatures. Allah les a dévoilés avec cette caricature qui a été faite à la grande personnalité politique en France. Et là, on fait des enquêtes. Quand il s'agit d'une grande personnalité de la politique française, on fait des enquêtes et peut-être même un procès, alors qu'il s'agit d'un homme politique qui prétend défendre la liberté d'expression. Mais ce sont deux poids, deux mesures à l'islam. Mais Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Rappelez-vous, après le 11 septembre, avec tous les calomnies adressées à l'islam et contre les musulmans, combien d'exemplaires du Coran ont été vendus? Combien d'exemplaires ont été distribués? Et combien de gens se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et déclaré leur entrée dans l'islam? Jetez un coup d'œil sur les statistiques, rien qu'en France, après la publication des premières caricatures. Et ça prouve la puissance d'Allah. Car ce que va Allah aura lieu, et ce qu'il ne veut pas n'aura pas lieu. Et on arrête là, inshallah, pour aujourd'hui. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan.